Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En Syrie, l'offensive a été lancée contre le dernier bastion du groupe État islamique à l'est du pays, tout près de l'Irak. Les Kurdes, notamment engagés dans les forces démocratiques syriennes, gagnent du terrain face à quelques centaines de djihadistes et autant de civils.
Et puis en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika brigue un cinquième mandat malgré des problèmes de santé qui l'ont considérablement affaibli.
La jeunesse algérienne peut-elle déjouer un scrutin que le FLN dit gagner d'avance? Reportage dans quelques instants à Alger. À la une en France, le projet pour une école de la confiance présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le ministre Jean-Michel Blanquer. Cette réforme n'arrive pas, malgré son intitulé, à convaincre les syndicats et une partie de l'opposition. Explication dans ce journal.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, développement de l'enfant, que change la scolarité à 3 ans? On posera la question au pédopsychiatre Gabriel Val.
Les États-Unis devraient commencer à retirer leurs soldats de Syrie dans quelques semaines. C'est ce qu'a annoncé hier soir le responsable des opérations américaines au Moyen-Orient. Mais tout dépendra de la situation dans le pays, a-t-il précisé, alors que les forces démocratiques syriennes, les FDS, alliance de combattants kurdes et arabes, soutenues par les États-Unis, ont lancé une offensive contre la dernière enclave du groupe État islamique. Il s'agit de l'assaut final contre le califat, affirment les FDS. Mais Daesh pourrait continuer à mener ses opérations dans la clandestinité. Le reportage d'Étienne Monin sur la ligne de front à Baghouz, un village situé à l'est de la Syrie, tout près de la frontière irakienne. Baghouz, où les combats font rage.
Un genou à terre pour rester protégé par le muret, le doigt pointé vers les palmiers et les maisons basses en briques de terre, le commandant Raled montre le dernier réduit de l'État islamique. C'est un combattant arabe, il appartient aux forces démocratiques syriennes composées de combattants kurdes et arabes.
Il ne leur reste plus qu'un petit périmètre. Ils sont dans un secteur d'environ 3 km² au total. Ils sont encerclés, ils ont perdu leur capacité à combattre maintenant.
Le groupe occupe une hauteur et un petit bout de la ville de Baghouz. Il est dos au mur contenu par la frontière irakienne et l'Euphrate, prisonnier d'un réduit dans lequel les conditions de vie sont devenues désastreuses, dit cette femme en burqa qui a fui la veille de l'offensive finale.
Ça fait un moment qu'on voulait s'enfuir, on était morts de faim. Il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau. Rien.
Le dernier carré de combattants est considéré comme le plus aguerri et le plus radical. Nabi Al-Youssef les a vus passer. Il est revenu il y a une semaine dans la ville de Hadjin, libérée en décembre dernier.
Ils ont amené beaucoup de combattants ici. Ils sont venus notamment de Raqqa, des Erez, Mossoul. Après la chute de Raqqa, ils ont fait de Hadjin la capitale du califat. Ils ont demandé aux combattants de venir ici.
D'après les forces démocratiques syriennes, il reste autour de 500 combattants entourés d'une partie des familles. 22 000 personnes ont déjà fui la dernière poche. Nasser est irakien, il vient de fuir Baghouz. Comme la plupart, il dit qu'il n'appartient pas à l'État islamique. D'après lui, il resterait un nombre important de combattants étrangers dans l'enclave.
Il y a de toutes les nationalités, africains, turcs, russes, allemands, français, américains et d'autres nationalités encore.
Dans cette opération finale, l'aviation est en première ligne. C'est elle qui a appuyé la libération d'un chapelet de petits villages plus au nord. Sur la route, on voit l'ampleur des dégâts. Ils sont considérables.
Étienne Monin sur la ligne de front à Baghouz, un village situé à l'est de la Syrie, tout près de la frontière irakienne. Alors que les États-Unis préparent leur retrait de Syrie, l'Afghanistan sera peut-être le prochain conflit où Washington va se désengager. Le chef par intérim du Pentagone se rend d'ailleurs dans le pays aujourd'hui pour rencontrer notamment le président afghan Ashraf Ghani. Les États-Unis souhaitent rassurer les autorités afghanes sur les négociations de paix que Washington mène directement avec les talibans depuis cet été. Il ne s'exprime plus en public depuis qu'il a été victime d'un AVC en 2013, mais il est candidat à un cinquième mandat présidentiel en Algérie. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, est donc de nouveau candidat. C'est ce qu'a annoncé hier son parti, le FLN, au lendemain d'un meeting qui a réuni des milliers de personnes à Alger. Le scrutin est-il joué d'avance le 18 avril prochain ou bien les électeurs vont-ils tourner la page Bouteflika? Élément de réponse avec notre correspondante Leïla Berato à Alger.
4 fois de suite, il a remporté l'élection dès le premier tour avec plus de 80% des voix. Pourtant, pour Irsan El-Kadi, responsable du groupe Interface Média, ce sont les abstentionnistes qui auront du poids face à Abdelaziz Bouteflika.
Ceux qui sont contre la poursuite de la présidence à vie de Bouteflika en n'allant pas voter, vont laisser permettre à Bouteflika d'être réélu. Mais s'il se passe quelque chose dans l'opinion qui fasse que les gens décident que Mario en a marre et que ça ne doit pas continuer, et qu'il y ait juste 10 points de moins dans le taux d'abstention, 10 points de moins, ça peut redistribuer complètement les cartes et ça peut créer un deuxième tour.
Les hauts responsables semblent unanimement favorables à un cinquième mandat, mais il existe des réticences du fait de l'état de santé du président. Irsan Al-Kadhi.
Les événements qui peuvent faire que ça change, c'est aussi ce qui se passera dans le camp du président, notamment autour de sa santé. Voilà, il y a 2-3 événements, 2-3 dates prévues où il doit se montrer en public. Si ce sont des rendez-vous ratés, ça peut mal se passer.
Ce dimanche, le FLN a salué cette candidature et a affirmé qu'il mobiliserait tous ses cadres et ses militants pour une nouvelle victoire.
Eux espèrent insuffler des changements en Iran. Des jeunes, ceux qui font partie des moins de 40 ans, qui représentent plus des 2/3 de la population iranienne, sont nombreux à critiquer la République islamique et ses interdits. Alors que l'Iran célèbre aujourd'hui le 40e anniversaire de la Révolution, le 11 février 1979, l'ayatollah Khomeini prenait le pouvoir. Commémoration ce matin à Téhéran. Mais ce 40e anniversaire se tient dans un climat morose. Retour des sanctions américaines contre l'Iran, effondrement de la monnaie nationale, manifestation violemment réprimée fin 2017, début 2018. L'Iran est toujours en crise, mais la jeunesse est porteuse d'espoir, estime la journaliste et écrivaine iranienne Fariba Ashtroudi.
On a payé très 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 cher le prix de cette révolution. Ça a été extrêmement violente. On a eu 8 ans de guerre, on a eu une répression terrifiante. La répression est toujours là, mais il y a des jours, je suis très optimiste parce que la société civile s'est éveillée, il y a une jeunesse formidable. Donc si on passe ce cap, je pense que l'Iran décollera. Si on ne le passe pas en revanche, parce qu'on a également les jusqu'au boutistes qui ne voient que leur intérêt, et effectivement ces gens-là sont dangereux. Donc vous voyez, j'allais dire mon cœur balance entre espoir et désespoir. Et il y a des jours, c'est insupportable, absolument insupportable. Il y a des arrestations, il y a des meurtres en prison déguisés en suicides. Il y a le fait que ce n'est toujours pas un état de droit, même s'il y a eu une amélioration ces derniers temps. Mais néanmoins, la société civile s'impose. Et les gens ne reculeront pas. Ça, c'est évident.
La journaliste et écrivaine iranienne Fariba Ashtroudi, rencontrée à Téhéran par Franck Madvon. La jeunesse iranienne est prise de liberté. C'est le reportage de la rédaction à suivre à 7h24 sur France Culture.
En attendant, il est 7h08 et c'est la suite des matins. Catherine Dutuit sera présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le projet de loi de Jean-Michel Blanquer pour une école de la confiance n'arrive pas, malgré son intitulé, à convaincre les syndicats et une partie de l'opposition.
Pour Emmanuel Macron, il s'agit pourtant d'une réforme importante pour l'école, qui est le fondement même de la politique de justice sociale. Principale mesure, la refonte de la formation des professeurs, l'obligation pour les communes d'aider financièrement les écoles privées et surtout l'instruction obligatoire des 3 ans au lieu de 6, Hakim Kasmi.
Si actuellement 97,6% des enfants âgés de 3 ans sont déjà scolarisés, la mesure concernera surtout en fait les 26 000 enfants de 3 ans qui ne fréquentent pas actuellement l'école, principalement issus des départements d'outre-mer, avec un objectif, lutter contre le décrochage scolaire dès le plus jeune âge pour avoir les meilleures bases possibles en primaire, estime Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Le texte prévoit également la refonte des ESPE, les écoles supérieures du professorat, créées en 2013 par Vincent Peillon, qui saluait à l'époque le grand retour de la formation supprimée sous Nicolas Sarkozy, qui forme les enseignants de la maternelle au lycée. Elles seront désormais remplacées par les instituts nationaux du professorat et leurs directeurs seront nommés directement par le ministre de l'Éducation et celui de l'enseignement supérieur, ce qui pose déjà question. Avec une place plus grande donnée aux cours théoriques pour mieux préparer les professeurs stagiaires qui se retrouvent actuellement à donner cours dès la rentrée sans la moindre expérience. Une façon aussi de combler le manque d'effectifs. Pour y remédier, le projet de loi prévoit aussi que les assistants d'éducation, les surveillants qui se préparent au concours de l'éducation pourront ponctuellement intervenir en classe en soutien des enseignants pour aider les élèves, ce que dénoncent les syndicats. Enfin, d'autres amendements pourraient être ajoutés, comme sur l'école inclusive pour les élèves en situation de handicap.
51 000 manifestants samedi dans toute la France pour le 13e week-end de mobilisation des Gilets jaunes. 4 000 personnes à Paris, de la casse, des vitrines brisées, une dizaine de voitures brûlées, mais aussi un manifestant qui a eu une main arrachée samedi. Une enquête judiciaire a été ouverte, a annoncé hier le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Alors que la polémique enfle sur l'utilisation des grenades lacrymogènes instantanées, les GLI F4, armes de défense la plus puissante utilisée par les gendarmes. On y revient dans le journal de 7h30. Direction les États-Unis à présent, avec un scandale qui secoue l'État de Virginie et son gouverneur démocrate, Ralph Northam, accusé de racisme depuis qu'un site conservateur a retrouvé une photo du trombinoscope de son école, où Ralph Northam, qui était donc étudiant en médecine dans les années 80, sur sa page, deux personnages. L'un grimé en noir, ce que l'on appelle aux États-Unis le blackface. L'autre porte un costume du Ku Klux Klan. Scandale national et manifestation locale à Richmond, en Virginie, suivi par Grégory Phillips.
Devant le Capitole de Richmond, les manifestations appelant à la démission de Ralph Northam sont quasi quotidiennes. Dans un premier temps, le gouverneur démocrate a présenté des excuses, affirmant qu'il ne se souvenait plus lequel des deux personnages il était sur la photo, avant finalement de revenir sur ses déclarations et d'affirmer qu'il n'a jamais porté de tenue du Ku Klux Klan et qu'il ne s'est jamais grimé en noir. Ça ne me surprend pas, dit Roy, rencontré dans le quartier afro-américain de Jackson Ward. Les hommes blancs ici font ça depuis des années. Ce pays, cet État, se sont construits sur le racisme. Moi, ce qui me surprend, c'est que tout le monde soit surpris. C'est ça l'Amérique. Julian Maxwell Etter est professeur d'histoire afro-américaine à l'université de Richmond. Le blackface est né de la caricature que l'on faisait à l'époque des esclaves. Mais quand on voit ces images ressurgir, ça veut dire que le sud des États-Unis n'a pas encore réglé tous ses démons. La plupart de ces hommes blancs, qui ont une cinquantaine d'années, qui sont aujourd'hui en politique, ont été élevés par des parents ou des enseignants qui ont vécu à l'époque de la ségrégation. La semaine dernière, le procureur général de Virginie a dû reconnaître que lui aussi s'était grimé en noir dans sa jeunesse. Dans un dossier qui n'a rien à voir, le gouverneur adjoint est accusé d'au moins deux agressions sexuelles. En Virginie, c'est tout l'état-major démocrate qui est aujourd'hui dans la tourmente.
Grégory Phillips en Virginie pour France Culture. C'est la critique des États-Unis tourmentés par leurs fantômes, par leurs démons toujours actuels, racisme et violence. C'est cette critique qui a été récompensée cette nuit aux Grammy Awards, l'équivalent de nos victoires de la musique, avec This is America de Childish Gambino. La chanson a remporté le titre de l'année et le prix du meilleur enregistrement, hybride de gospel et de rap, pamphlet contre les excès de tous bords qui secouent les États-Unis. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. This is America de Childish Gambino, élu chanson de l'année cette nuit aux États-Unis. Le temps de ce lundi 11 février, partagé en traverses et éclaircies, du soleil, surtout cet après-midi dans une large moitié ouest du pays. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 4 et 10 degrés de l'est au centre de l'Hexagone, 9 à 13 sur l'ouest et jusqu'à 16 près de la Méditerranée.